Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Dans quelques instants, dans quelques minutes, notre débat du jour consacré à la lutte contre Boko Haram. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Comment combattre ces islamistes? Nous vous donnerons la parole dans un instant. Mais d'abord, comme promis, nous retrouvons Youssouf qui nous appelle de Bordeaux. Vous êtes toujours avec nous, Youssouf?
Oui, je suis là.
Et Francis Patindé, toujours avec nous au téléphone, maître de conférence à Sciences Po Paris, journaliste qui, à l'occasion des rencontres humanistes et fraternelles africaines et malgaches qui se sont déroulées il y a quelques jours à Lomé, a rédigé donc un article sur le site, un article pour le site RFI sur la franc-maçonnerie en Afrique. Afrique, faut-il avoir peur des francs-maçons, hein, c'est le titre de votre article, Francis Patindé. Youssouf, vous avez d'autres questions hein, sur ce sujet?
Oui, j'avais une dernière question, oui.
On vous écoute.
Voilà. Et je voudrais savoir le rôle des francs-maçons dans la politique en Afrique et dans le monde des affaires.
Alors, Francis Patindé, est-ce qu'on peut dire déjà que la franc-maçonnerie est très présente en Afrique francophone?
Absolument. Et elle connaît un franc succès en Afrique francophone. Très rapidement, la première loge connue en Afrique francophone remonte à 1781. Il s'agit d'une loge de la Grande Loge de France, ouverte, il est vrai, à l'époque, aux seuls Européens de la colonie. Mais le premier Africain initié francophone le sera en 1882 à Saint-Louis du Sénégal. Alors, l'un des francs-maçons les plus connus en Afrique, ce sera le député à l'Assemblée nationale française, Blaise Diagne, le Sénégalais, qui a été initié à l'île de la Réunion, et qui deviendra en 1924 le premier Africain conseiller de l'ordre du Grand Orient de France. Alors maintenant, pour répondre directement à la question de Youssouf, c'est vrai que la franc-maçonnerie africaine, comme de manière générale la franc-maçonnerie, souffre de plusieurs travers. Elle est accusée d'entretenir des liens trop étroits et parfois équivoques avec les anciennes puissances coloniales, la France, la Belgique et la Grande-Bretagne. On lui reproche par ailleurs l'affairisme frénétique de certains de ses membres, une minorité certes, parce qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a des instituteurs, des médecins, d'honorables citoyens au sein de la franc-maçonnerie, et donc c'est une minorité à qui l'on reproche cet affairisme frénétique. Ouais. Et dernière chose, c'est que les gens se plaignent surtout des rapports trop étroits entre certains francs-maçons et les dirigeants politiques. Et beaucoup de dirigeants africains, d'ailleurs, ne cachent pas leur appartenance à la franc-maçonnerie, cette appartenance qui n'exclut pas des règlements de compte très, très, très violents. Juste pour vous donner un exemple, au Congo-Brazzaville, le président Pascal Issouba et son prédécesseur Denis Sassou Nguesso, qui sont tous les deux des francs-maçons, se sont fait la guerre, une guerre féroce en 1997, cette guerre a abouti à la chute de Pascal Issouba.
Mais c'est aussi la franc-maçonnerie qui a tenté par la suite de mettre autour de la même table Pascal Issouba et Denis Sassou Nguesso.
Absolument, ils ont essayé comme ils l'ont fait au Bénin, d'ailleurs. Ils l'ont réussi au Bénin, parce qu'il se dit que la franc-maçonnerie a beaucoup œuvré au passage de la dictature à la démocratie au Bénin, et on dit également que leur action a été déterminante dans le démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud.
Tout à fait, alors, entre Frédéric de Clercq et Nelson Mandela, c'est effectivement, dit-on, la franc-maçonnerie qui est parvenue à ce compromis historique entre les deux hommes pour mettre peu à peu fin à l'apartheid.
Absolument, c'est à mettre à l'actif de la franc-maçonnerie, en tout cas selon les témoignages que j'ai recueillis. Alors, pour revenir à la lutte féroce entre clans et maçonniques, par exemple, l'Afrique n'a pas le monopole. Vous vous souvenez que Augusto Pinochet et Salvador Allende, qui étaient tous les deux des francs-maçons, ça n'a pas empêché Augusto Pinochet de renverser Salvador Allende le 11 septembre 1973.
Merci beaucoup Francis Patindé d'avoir été avec nous, et si nos auditeurs veulent en savoir plus, je les invite évidemment à se rendre sur le site RFI.fr et à lire votre article intitulé « Afrique ». Afrique, faut-il avoir peur des francs-maçons ? Et vous avez également pour l'occasion publié un petit lexique de la franc-maçonnerie consultable également sur Internet. Merci à Youssouf qui nous appelait de Bordeaux. Place au débat. On va en parler durant les 20 prochaines minutes de cette mobilisation régionale contre Boko Haram. D'autant que ces dernières semaines, le groupe islamiste a multiplié ses assauts dans le nord-est du Nigeria, mais aussi au Cameroun et depuis quelques jours au Niger. Du coup, face à la montée en puissance de ce groupe, le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun se sont mis d'accord avec le Nigeria pour mobiliser 8700 hommes dans une force multinationale. Reste à savoir évidemment quand cette coalition sera véritablement opérationnelle. En tout cas, le Tchad a déjà lancé ses soldats dans la bataille. Lundi, le Parlement du Niger a approuvé à l'unanimité l'envoi de troupes au Nigeria. Mais cette détermination régionale ne semble pas du tout inquiéter le chef de Boko Haram, puisque lundi, dans une nouvelle vidéo, il a promis la défaite de la force militaire régionale. Qu'en pensez-vous ? Comment traquer ces islamistes ? 33 9 693 693 70. Ismaël, vous êtes à Niamey. Bonjour Ismaël.
Bonjour Juan.
Et vous êtes satisfait, vous, déjà de la mobilisation et de l'implication de votre pays pour lutter contre Boko Haram ?
Oui, en effet, là, je crois qu'il faut déjà féliciter toute la classe politique nigérienne qui a compris que là, c'est l'intérêt national qui est en jeu. Et je crois que l'opposition, comme la majorité l'a comprise, et c'est à féliciter. Mais ce qui est fondamental, je crois que il faut comprendre déjà que Boko Haram est un cancer. Si le mal n'est pas extirpé à la racine, il va métastaser. Donc, c'est d'où l'importance de comprendre qu'il faut comprendre que ils ont un process qu'il faut comprendre avant de combattre Boko Haram. Ils passent par l'endoctrinement des jeunes. Ils ont aujourd'hui un nombre important de jeunes dans les populations qui les soutiennent. Ils ont des jeunes qui ont infiltré les populations et ils procèdent donc par cette approche asymétrique pour inquiéter les populations. Donc c'est déjà ça qu'il faut comprendre. C'est par là que les armées coalisées de ces quatre pays de la CBLT doivent commencer.
C'est-à-dire, si je comprends bien votre analyse, Ismaël, la lutte contre Boko Haram ne doit surtout pas se limiter à l'aspect militaire. Il faut une approche pédagogique, impliquer la population et expliquer justement à la jeunesse ce que représente réellement Boko Haram.
Donc, il faut passer par cette sensibilisation au niveau de la population. Il faut comprendre qu'il y a des jeunes qui ont été endoctrinés. Il faut comprendre qu'il faut avoir le soutien total de ces jeunes-là. Donc, un travail a commencé. Aujourd'hui, même si on arrive à combattre Boko Haram, qu'est-ce qui sera après le Boko Haram ? Il faut comprendre qu'il y a des jeunes qui ont été enrôlés, qui ont été endoctrinés, qui peuvent encore faire ressurgir le mal. Donc, il faut prendre le mal à la racine. Et je crois que tout ce travail est à faire et qu'en plus de ça, il y a des jeunes qui ont été limogés, qui ont été licenciés, qui aujourd'hui n'ont rien d'autre à faire, qui n'ont rien appris dans leur vie et qui ne peuvent pas avoir d'autres sources de revenus. Donc, le Boko Haram, pour eux, est une source importante de revenus, est une solution salvatrice pour leur vie.
Ouais, on sait depuis plusieurs semaines que Boko Haram dispose de relais au Niger, que Boko Haram recrute au Niger. D'ailleurs, on a pu entendre sur notre antenne les reportages de Nicolas Champeau, qui est allé, journaliste au service Afrique des RFI, qui est allé à la frontière entre le Niger et le Nigeria. Une petite rivière sépare ces deux pays, et on entendait bien justement les militaires nigériens déployés à la frontière dire mais voilà, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est aller dans les villages, à la rencontre de la population, et convaincre la population vient de collaborer avec nous, force de défense, puisque c'est vrai que certains ont été, comme vous le disiez à l'instant Ismaël, endoctrinés. Autre réaction toujours au Niger, Taïrou, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Bienvenue. Est-ce que vous partagez l'enthousiasme d'Ismaël à l'instant en disant bravo à l'ensemble de la classe politique, c'est très bien que le Parlement ait voté à l'unanimité l'autorisation de déployer des forces militaires au Nigeria?
Bravo, on peut le dire, c'est vrai, mais moi je pense que en matière de sécurité, il n'y a pas de demi-mesure, il ne faut pas attendre, et je pense qu'on a trop attendu, on a trop parlé pendant longtemps, et on n'a rien fait en fait pour justement combattre Boko Haram, qui on le sait, est aux frontières du Niger depuis quelques mois, notamment de la région de Diffa.
Mais quand vous dites qu'on n'a rien fait, ce sont les soldats nigériens qui n'ont rien fait, c'est-à-dire vous regrettez quoi exactement ?
Je regrette le manque de volonté politique à prendre des décisions comme ça a été fait à l'Assemblée ce lundi là. C'est pas la faute des soldats. Il faut que les soldats reçoivent des ordres pour qu'ils puissent être déployés sur le terrain. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Et comme j'ai dit, on a beaucoup parlé. Notre président est beaucoup engagé dans la lutte. Et je pense qu'il a le soutien de la population. Mais il aurait fallu vraiment prendre des dispositions bien avant. Vous voyez ce qui s'est passé il y a deux semaines quand il y a eu les manifestations contre justement les publications des caricatures du prophète Mohamed et la marche pour Charlie Hebdo à Paris. En fait, la réponse que le gouvernement a donnée est une réponse qui est, à mon avis, insuffisante. Il aurait fallu taper plus fort et il faut continuer à taper plus fort. Ismaël a dit quelque chose qui est très intéressant. Les jeunes se sont fait endoctriner. Les jeunes se font endoctriner, recruter au sein de Boko Haram. Et quand je vois les certaines mosquées à Niamey, quand je vois qu'il n'y a pas d'observatoire qui est créé pour justement surveiller les lieux de culte, notamment les lieux de culte musulmans, parce que c'est de ça qu'il est question, alors je me demande qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est en train de passer à côté vraiment de l'essentiel.
Ouais. Donc ça ne suffira pas selon vous, Ismaël le disait également, de déployer des militaires, notamment on parle de 750 militaires nigériens qui seront donc déployés au Nigeria pour combattre Boko Haram. Il y a tout un travail psychologique d'aide et de soutien auprès des jeunes et des moins jeunes qui se sont endoctrinés par ces islamistes. Merci à tous les deux, Taïrou et Ismaël. On va prendre peut-être Ambroise. Excusez-moi, j'hésitais un peu. Bonjour Ambroise.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes au Bénin ?
Oui.
Bienvenue, on vous écoute. Vous êtes-vous inquiet aussi par Boko Haram, même si vous êtes, on va dire, un peu loin du nord-est du Nigeria?
Oui, effectivement, je suis inquiet, parce que il n'est pas exclu, Boko Haram, le Bénin fait frontière avec le Nigeria, il n'est pas exclu qu'un jour Boko Haram également peut-être décide de s'en prendre à nous. Je crois que, j'approuve l'initiative en fait prise par les chefs d'État d'intervenir. Parce que vous voyez, une fête comme Boko Haram, je pense qu'il n'est pas question de négocier avec elle. Parce que des gens qui tuent des innocents, une barbarie extrême, je crois que de quoi peut-on vraiment discuter avec eux? Il faut y aller vraiment de façon énergétique et faire l'effort de l'éradiquer complètement. Mais ce dont j'ai un peu peur, malheureusement, Juan Gomez, c'est que cette mobilisation-là, au niveau de nos troupes, hein, ne suffise pas. Moi, j'aurais préféré en fait que la communauté internationale se mêle réellement de cette lutte-là. Qu'est-ce qui empêcherait que les États-Unis, que la France également envoient des troupes, mettent à disposition toute la logistique, toute la technologie nécessaire pour combattre la secte? Vous voyez que c'est une secte vraiment nébuleuse, elle échappe à tout le monde.
Alors, la France n'est pas complètement, enfin, n'est pas indifférente à ce qui se passe, au nord-est du Nigeria. La semaine dernière, pendant sa conférence de presse, François Hollande a précisé que la France soutenait, mais de façon logistique et opérationnelle, les forces africaines sur le terrain, en fournissant du carburant, en fournissant parfois des munitions. Certains disent que Paris, mais aussi Washington, Londres, fournissent des renseignements aériens et satellitaires aux armées africaines qui sont déployées. Vous, ce que vous attendez, si je comprends bien Ambroise, c'est la présence physique sur le sol nigérian de soldats français et de soldats américains.
Oui, vous voyez un peu ce qui s'est passé au Mali où la France est intervenue énergiquement. La France a envoyé des troupes au sol. Je ne sais pas si vous me suivez.
Je vous suis.
Moi, j'aurais voulu. Oui. Oui. Oui, Juan.
Non, mais je dis, je vous suis et je vous écoute. Donc, ce que vous souhaitez, vous, c'est un déploiement de forces occidentales et en l'occurrence de forces françaises. On va voir ce qu'en pense Charles. On va voir s'il partage la même analyse que vous. Charles nous appelle de N'Djamena. Bonjour, Charles.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Tchad?
Je suis au Tchad. Je partage l'avis de. Je ne suis pas vraiment d'accord avec l'avis de
D'Ambroise.
Parce que la présence française n'est pas. Il faut d'abord qu'il y ait une mobilisation du côté des États concernés, c'est-à-dire le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger et en plus le Bénin. Vous voyez que moi je crois que si aujourd'hui la lutte contre les Boko Haram balbutie, c'est justement dû au manque de volonté et d'engagement de Goodluck Jonathan, parce que pour lui, ce n'est pas un enjeu politique pour lui. Son enjeu, son calcul, c'est d'abord sa réélection. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la lutte contre les Boko Haram tergiverse ici dans la. Dans
mais la priorité de Goodluck Jonathan, c'est sa réélection. En même temps, il y a la réalité du terrain qui oblige le Nigeria à repousser tout de même de 6 semaines la tenue des élections législatives et présidentielles. Elles auraient dû théoriquement se dérouler samedi prochain. Elles n'auront lieu qu'à la fin du mois de mars. Donc forcément, à un moment donné, Boko Haram aura un impact sur la campagne électorale et aura un impact peut-être le jour du vote, lorsque les Nigérians iront mettre dans l'urne leur bulletin de vote.
En fait, Juan, je crois que pour Goodluck, Boko Haram n'est pas un enjeu électoral pour lui, parce que quand vous voyez un peu la géographie du Nigeria, c'est les Boko Haram ont seulement pris les 2 États du Nord Nigeria, et les 34 autres États peuvent facilement participer aux élections, et ce qui ça peut facilement faciliter sa réélection. Donc c'est pour cela, moi je dis que ce n'est pas un enjeu politique pour Goodluck.
Oui, et Goodluck Jonathan, son fief politique, c'est le Sud. Et le Sud, pour l'instant, est épargné par Boko Haram. Déployé, on parle de 3500 soldats tchadiens sur le terrain. C'est une démarche que vous soutenez, vous, en tant que citoyen tchadien?
Oui, je soutiens le déploiement de 3500 soldats tchadiens, étant donné que le Tchad étant appartenant déjà, le Tchad est d'abord au cœur du continent africain et c'est l'un des rares pays au monde qui est ouvert à 4 grandes sous-régions ici en Afrique. Donc aussi le Tchad constitue un verrou sécuritaire pour le terrorisme dans la sécurité dans le Sahel. Là, je salue la mobilisation de 3500 soldats, mais à côté de cela, moi je voudrais que Goodluck s'investisse. Imaginez que le Tchad qui vient en appui envoie 3500 soldats et le Nigeria, qui est un pays concerné, qui est le pays qui est la source même du problème, envoie seulement 3200. Moi, je crois que le Nigeria ne doit pas seulement envoyer 3200 soldats, mais plutôt déployer tout son arsenal sécuritaire, c'est-à-dire les armements de dernières technologies.
Donc pour vous, une fois de plus, le Nigeria et le président en l'occurrence prouvent sa mauvaise volonté à lutter contre Boko Haram. En tout cas, le porte-parole de la présidence du Nigeria a promis lundi qu'en 6 semaines, Boko Haram n'existera plus dans ce pays. Ils parviendront à en finir avec cette secte islamiste. C'est ce qu'il a dit. On veut bien le croire, on verra ça dans 6 semaines. Et 6 semaines, comme par hasard, c'est la durée du report des élections législatives et présidentielles. Et ce n'est pas la première fois que le Nigeria se fixe comme ça un ultimatum, en tout cas un délai pour anéantir Boko Haram. Mais pour l'instant, l'armée n'y est jamais parvenue. Ilias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Niamey ?
Oui.
Bienvenue, on vous écoute, Ilias.
Oui, bonjour.
Allô ?
Oui.
Vous nous entendez ou pas ?
Oui, je vous entends.
Alors, vous nous entendez ? Je vous entends très bien. Bah, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RFI. Comment vous réagissez-vous donc à Boko Haram et à l'intervention de votre pays ?
Bon, l'intervention de mon pays est presque obligatoire. Plus qu'obligatoire plutôt, parce que Boko Haram maintenant frappe à l'intérieur du pays, notamment dans la zone Est.
Oui.
Et je pense que toute la population nigérienne est derrière l'armée. Mais il faudrait pas que les autres fassent une récupération politique, parce que le problème de sécurité est beaucoup plus sérieux pour l'utiliser autrement.
Quand vous parlez de récupération politique, excusez-moi, je ne comprends pas bien.
Parce que je vois dans les journaux Union Sacrée derrière le président, mais plutôt derrière l'armée nigérienne, parce que c'est elle quand même qui est sur le terrain. Et il faudrait que le gouvernement accompagne le déploiement de l'armée par un autre déploiement qui ne doit pas se crier sur les toits, notamment les renseignements. Parce qu'une armée sans information n'est pas une armée.
Ouais.
Donc il faudrait aussi voir du côté de la population, parce que dans le temps, c'est la population qui donne les renseignements. Tout individu suspect est signalé à l'autorité, que ce soit coutumière ou administrative, tout de suite, et on fait des investigations pour savoir d'où vient cet individu.
Ouais. Ouais. Donc impliquer la population, c'est ce que vous dites. Il faut aujourd'hui, l'urgence, c'est impliquer la population. Je vous interromps, malheureusement, on est obligé de mettre un terme pour aujourd'hui, évidemment, à ce débat consacré à la lutte contre Boko Haram. On aura certainement l'occasion d'y revenir dans les prochains jours, et pourquoi pas vendredi, la Libre Antenne. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dès maintenant. Le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. Merci à tous de votre fidélité. Bonne journée. À demain.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Money, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.
Bonjour Sandrine Mercier.
Bonjour Juan.
Déjà dans ce studio, dans 10 minutes priori.